Vous recevez certainement les courriers qu'on a régulièrement. C'est ça, je vous invite, qu'on va d'ailleurs régulièrement sur le site de l'AFPAC, où on a souvent des informations sur l'actualité, les difficultés et toutes les démarches qui sont faites par les conseils d'administration de l'AFPAC. Ensuite, c'est Cécile Bernard qui vous présentera le reste de la soirée et les autres intervenants. Donc, merci à vous, merci pour le silence. Et voilà.
Non. Ah, pardon. Ça va sonner après, comme ça, ça va permettre de respecter le temps. Donc je suis ravi, moi, d'être avec vous. J'essaie de temps en temps d'aller un petit peu en région, donc ça me permet d'enrichir Air France quand ça vole, ou la SNCF, parce que je considère, et c'est ce qu'on... les éléments qu'on a à la SFAP, que le développement des soins palliatifs, ça part d'abord des régions. Ça part des équipes de terrain qui s'organisent, qui arrivent à créer des coordinations locales, puis des coordinations régionales. Et quand on regarde un peu le développement des soins palliatifs en France, ou quand on va au ministère à droite et à gauche et qu'on évoque la question des soins palliatifs, on repère les régions qui s'organisent. Et dans les régions qui s'organisent, on y voit les résultats beaucoup très efficients. Et je connaissais Jean-Marc, je connaissais Alain, donc je savais la dynamique de la région que vous avez. J'assistais tout à l'heure au conseil d'administration et je vous en remercie. Et je vois les échanges, les débats, l'inventivité, la créativité, le dynamisme. Et ce dynamisme, après, j'essaye de m'en faire, moi, le porte-parole au niveau national, et le porte-parole au niveau des autres régions qui, parce que c'est leur histoire, sont un peu moins dynamiques. Donc moi, je suis ravi d'être avec vous. Gap ou Marseille-Rennes, ça fait un petit bout, mais c'est pas très grave. Alors, ce que je me propose, en une dizaine de minutes, parce que ce qu'on a prévu, c'est plutôt laisser du temps aux échanges et une quinzaine de minutes de questions, c'est de regarder un peu les enjeux à venir sur les soins palliatifs, sur le développement des soins palliatifs, le développement d'une politique d'accompagnement de la fin de vie, le développement de la médecine palliative, au regard du bilan que l'on peut faire depuis 1999, la fin du XXe siècle, et au regard des perspectives et des enjeux à venir. Il va nous falloir probablement concilier deux choses qui ne doivent pas être vues comme paradoxales, mais qui doivent être vus comme complémentaires. Il va falloir concilier une demande sociétale vis-à-vis des acteurs de soins palliatifs, vis-à-vis du développement de l'accompagnement de la fin de vie, demande sociétale que l'on a vue transparaître au travers du rapport FICAR, au travers du rapport du CCNE, et en même temps, nous, professionnels de santé, devons redire qu'il faut développer les soins palliatifs et qu'il faut mettre en œuvre une véritable politique de l'accompagnement de la fin de vie. Alors, ce que moi j'ai entendu, et lorsqu'on va dans les débats de la demande sociétale, on entend une volonté d'une plus grande autonomie des patients. Ce n'est pas du tout contradictoire, me semble-t-il, avec la démarche qu'on met en œuvre. On entend une volonté de maîtriser. Ce n'est pas, me semble-t-il, non plus contradictoire. Ce qu'on perçoit beaucoup, c'est une inquiétude. Là, on a peut-être à agir par nos pratiques, pour que les patients soient moins inquiets, et on perçoit aussi une méconnaissance profonde des patients, des familles, de nos concitoyens, sur les dispositifs qui permettent d'accompagner la fin de vie, et une méconnaissance sur la loi. Et je crois que lorsqu'on veut gâcher un repas, un dîner, il suffit de dire qu'on travaille dans les soins palliatifs, et c'est terminé. Moi, je fais ça quand ça m'énerve. À un moment donné, voilà, des rencontres, je travaille dans les soins palliatifs, on regarde, ça doit pas être drôle, ça doit être dur, tu vois que des morts. Ben non, on ne voit pas que des morts, on vit autre chose que la fin de vie de toutes les personnes. Donc on a ces représentations. Et je pense qu'il va même falloir réfléchir à comment modifier ces représentations et à comment faire en sorte que les soins palliatifs ne s'intègrent pas simplement comme la toute phase terminale. On entend, et je crois qu'il faut l'écouter, la volonté d'une modification législative. Alors, il ne faudrait pas penser que la loi devrait tout résoudre. Pourtant, je pense qu'il ne faut pas nous arc-bouter sur l'idée que nous aurions un dispositif législatif parfait qui ne mériterait aucune adaptation ou aucune évolution. Mon propos, et j'en développerai tout à l'heure, c'est que nous avons, au travers des lois de 99, de la loi de 2002 et de la loi d'avril 2005, des lois qui donnent des repères majeurs. Il ne faut pas modifier ces repères. Il ne faut pas modifier l'architecture. Il ne faut pas modifier les fondamentaux. Hier, j'étais à un débat avec Jean Leonetti, et on a insisté là-dessus. On ne modifie pas les fondamentaux. Par contre, il faut entendre que nos concitoyens, que les patients seraient rassurés probablement par une modification législative. À nous de faire comprendre aux législateurs que la loi doit continuer à donner un cadre général et ne doit pas vouloir traiter de toutes les situations singulières. Autre point qui revient très souvent, et je pense que c'est à entendre au niveau de la demande sociétale, c'est cette focalisation, en tout cas médiatique, de la question de la fin de vie autour du sondage Paris-Match, faut-il ou pas dépénaliser l'euthanasie. C'est-à-dire que cette question de l'euthanasie, du suicide assisté, focalise les médias et aurait peut-être tendance à nous focaliser. Si bien qu'on aurait probablement, ou on aurait tendance, et je le parle comme président de l'ASFAP, et c'est aussi une critique qu'on peut peut-être faire à l'ASFAP, à ne voir la question de la fin de vie qu'au travers de ce prisme médiatique de situation exceptionnelle. À nous, probablement, de revenir sur nos fondamentaux. Et il me semble que nos fondamentaux, en tout cas un des fondamentaux, c'est de travailler au développement de l'accompagnement des personnes en fin de vie, et donc de se battre pour la remise en route d'une véritable politique de santé publique, d'un développement des soins palliatifs. Je rappelle qu'il y avait, 2008-2012, un troisième programme de développement des soins palliatifs. Il est clos en 2012. Depuis, si des personnes ont vu quelque chose bouger au niveau national, lever la main, je serais content parce que moi, je ne vois pas grand-chose. C'est-à-dire que, y compris le politique, focalise son regard sur cette question sociétale. À nous, en permanence, de dire que la réponse ne passe pas par forcément cette solution à une question simple qui serait faut-il ou pas dépénaliser l'euthanasie. Je dis que c'est la question qui est simple, mais la réponse est beaucoup plus compliquée. Parce que je ne voudrais pas qu'en pensant donner la réponse à cette question, on laisse à penser aux malades qu'on aurait trouvé la réponse à la question de la mort. Et au contraire, je pense que ça serait les enfermer dans l'utopie d'une mort maîtrisée, dans l'utopie d'une mort qui aurait un sens, par contre, à simplement modifier la loi qui donnerait ou pas un cadre législatif à l'euthanasie. La proposition que je développe, et j'ai été auditionné auprès de Jean Leonetti, ça a été de dire que cette politique de l'accompagnement de la fin de vie, pour laquelle il faut plaider, doit, à mon avis, être sur deux axes. Un premier comporte réellement le développement des soins palliatifs et de la démarche palliative, et un deuxième est d'écouter nos concitoyens et d'écouter les professionnels que nous sommes dans les modifications, les adaptations législatives que l'on pourrait porter au dispositif de la loi d'avril 2005. Je vais vous développer rapidement quelques points, je ne peux pas vous en faire trois heures. Dans le développement des soins palliatifs, j'ai développé quatre priorités, pour moi il n'y a pas d'ordre, parce qu'elles sont toutes intriquées. Peut-être qu'un des éléments néanmoins qui est marquant dans ce que je vais vous proposer, c'est que je propose des choses à moyen terme. Je n'ai pas la baguette magique pour agir en 5 minutes pour que toutes les fins de vie en France se passent telles que nous le souhaitons. Mais très sûrement qu'on a quand même à faire un effort sur l'accès aux soins palliatifs. Je rappelle qu'il y a une loi de 99 qui dit que tout patient doit avoir accès aux soins palliatifs. Oui, les programmes ont amélioré le dispositif des soins palliatifs dans le sens sanitaire, à travers des unités de soins palliatifs, à travers des équipes mobiles. Alors, je ne dis pas qu'il faut en rester là, mais il y a eu un vrai développement dans le champ sanitaire. Qu'en est-il du développement au domicile et dans le champ médico-social? Qu'en est-il également dans la population des personnes âgées? C'est très probablement que s'il y a un axe à développer, me semble-t-il, c'est le développement de l'accès à tout le monde aux soins palliatifs en focalisant le domicile, le secteur médico-social et nos personnes âgées, nos aînés, quel que soit leur lieu de vie. Dans cet accès aux soins palliatifs, il nous faut aussi promouvoir une politique qui permettent que les soins palliatifs soient mis en œuvre précocement et non pas, comme aujourd'hui, trop tardivement. Au ministère, les conseillers, alors, ne rigolent plus, mais ont rigolé la première fois où j'ai parlé de soins palliatifs préventifs. J'ai dit, vous développez une médecine préventive, c'est dans un axe fort de la stratégie nationale de santé. Moi, j'ai un chapitre à vous proposer, que sont les soins palliatifs, comme démarche préventive. Là, ils m'ont demandé, qu'est-ce que je fumais ? J'ai essayé de leur expliquer qu'on ne fumait rien, qu'on était dans la réalité, qu'on savait que si on mettait en œuvre précocement une démarche palliative qui ne soit pas dans un antagonisme ou dans une rupture avec la démarche curative, on rendait service aux patients de très bonne heure. Deuxième axe, après cet accès, c'est la question de la formation. Aujourd'hui, la formation s'est améliorée, mais reste relativement insuffisante, ou pour dire très insuffisante. Alors, à la FAP, il y a le Collège National des Infirmiers qui travaille beaucoup sur la formation infirmière. Moi, j'ai l'axe un peu plus de la formation médicale. Nous n'avons toujours pas de filière universitaire. Il y a, je crois que c'est 5 000, 6 000 étudiants de médecine formés chaque année. Vous avez 6 professeurs associés. Ça veut dire que vous avez un professeur associé de médecine palliative pour 1 000 étudiants. Alors, si on rapporte aux minutes qu'il peut consacrer pour chaque étudiant, ça ne va pas être grand-chose. Et quand dans les facultés, vous avez en moyenne 10 heures de cours par an auprès des étudiants, par formation, par sur l'ensemble de leur cycle aux étudiants en médecine, c'est-à-dire 1 heure de cours par an, on voit bien qu'il y a un déficit majeur de formation. Les étudiants apprennent plein de choses, des trucs qu'ils ne verront jamais. Par contre, dans le cours de deuxième année sur la sémiologie, c'est-à-dire on apprend les signes cliniques, il y a un chapitre qui n'existe pas, c'est l'agonie. Donc nous n'apprenons même pas à nos étudiants à faire un diagnostic d'agonie. Ça pose question. Donc là, on a un axe de formation majeur, et c'est vrai que c'est difficile à vendre, parce que c'est du long terme. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est toute la réflexion que l'on doit, nous collectivement, porter sur le bénévolat. Bénévolat d'accompagnement et autres formes de bénévolat et autres formes de solidarité. Et moi, je préfère travailler sur les choses que nous pouvons faire bouger que travailler sur les choses que l'on veut faire bouger aux autres. C'est-à-dire, voyons comment nous-mêmes déjà pouvons faire progresser le bénévolat d'accompagnement, mais comment ce bénévolat d'accompagnement, comment nous-mêmes professionnels pouvons influencer les autres formes de bénévolat qui sont confrontés aussi aux situations de fin de vie, et comment nous pouvons essayer de faire progresser aussi les solidarités auprès des personnes extrêmement vulnérables qui approchent le terme de leur vie. Nous avons une solidarité familiale, je crois qu'il nous faut aussi réfléchir à une solidarité sociétale. Et une des propositions, par exemple, que nous faisons, c'est tout ce qui est autour de la solidarité dans les entreprises, tout ce qui peut être la solidarité dans le champ public. Nous avons des pistes de réflexion à avoir là-dessus. Donc vous voyez, l'accès, la formation, le bénévolat, car aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur le champ professionnel. Je suis allé à Gardanne tout à l'heure et j'ai vu l'activité des 40 bénévoles et quel poids ils peuvent avoir dans le soutien auprès des patients et des équipes, et ça, c'est à retenir. Quatrième axe, me semble-t-il, de l'accès aux soins, au développement des soins palliatifs, c'est l'information du grand public. L'information du grand public est fondamentale parce que, je rappelle que 7 Français sur 10 ne connaissent pas la loi Leonetti, que 2% simplement de Français avons écrit des directives anticipées, que les Français sur un sondage BSB à 90% demandent la dépénalisation de l'euthanasie en cas de souffrance, et qu'on leur demande la raison, la première raison, c'est à 70% par la crainte de l'acharnement thérapeutique. Paradoxe, de demander, me semble-t-il, la modification d'un repère majeur dans notre société, par crainte de quelque chose qui est déjà dans une loi. Mais Jean Leonetti me rassure et les juristes me rassurent en disant que les très bonnes lois mettent parfois 10-20 ans à porter leur fruit. Néanmoins, cette loi n'a pas été accompagnée par le champ politique. Et là, il y a quelque chose à faire, notamment un des travaux que nous allons essayer de faire pour la FAP, c'est via des films d'animation, via des expérimentations de diffusion. Mais ça veut dire aussi que dans l'information, nous avons, je crois, à développer l'information au grand public sur la question de la mort et de la fin de vie. Alors là, c'est encore plus en amont. Quand je propose dans le règlement, dans les textes réglementaires, de modifier les programmes scolaires pour introduire la question de la mort, on hésite entre une HO ou une HDT pour moi. Et quand j'essaye de leur raconter comment j'ai expliqué la mort à ma fille après la mort de Quenotte, alors Quenotte c'est un lapin, vous inquiétez pas, là je crois qu'ils me prennent désespérément pour quelqu'un qui a un rapport à la mort à moitié pervers. Et pourtant, nous avons tous l'expérience que ce déni de la mort dans la société a ensuite des traductions majeures chez les patients et chez les familles. Là, c'est une modification profonde, hein, et je préfère que dans ce grand téléfilm et film qui passe bientôt à Cannes, qui est Plus belle la vie, lorsqu'on aborde la question de la fin de vie, ça ne soit pas nos travers. Oui, bah oui, c'est pour ça que c'est un Plus belle la vie, hein, vous connaissez. Que ça ne soit pas au travers d'un geste d'euthanasie et de souffrance, comme ça a été le cas il y a à peu près 2 ans, mais au travers d'une démarche palliative qui a marché. Hein? Donc là, on a des axes de modification. Après, au niveau, je pourrais revenir, ça vous intéresse tout à l'heure dans les questions, du dispositif de 2005, on a probablement, auprès des directives anticipées, à améliorer les éléments, et puis, il nous faut réfléchir, parce que c'est une attente sociétale, et nous sommes obligés d'y répondre, de réfléchir et de préciser un certain nombre de points sur la sédation. Et j'ai envie de dire qu'il nous faut préciser les points pour dire que la sédation est un geste médical encadré par de bonnes pratiques de recommandation et que c'est ce qui doit être mis en œuvre. Et nous avons là un effort pédagogique à faire pour dire que la sédation, c'est la sédation en phase terminale, que sédater un malade n'a jamais tué personne et que si jamais on voulait tuer une personne avec une sédation, il faudrait mieux utiliser autre chose que les médicaments qu'on utilise. Ce discours porte ses fruits, hein, et il faudra réfléchir à quelque chose autour de cette sédation, non pas pour modifier nos pratiques, mais pour qu'elles soient mieux connues, et qu'elles soient mieux connues des patients, qu'elles en aient moins peur, et qu'à la rigueur, un malade puisse dire, si j'ai un symptôme réfractaire pour lequel il n'y a pas de traitement ou les traitements résistent, je peux demander à être sédaté. Mais restons dans le cadre de nos recommandations sur la sédation. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau d'évoquer une politique de la fin de vie ou d'accompagnement de la fin de vie, mais sauf qu'il faut imaginer les leviers pour le faire du sens. Alors, moi j'imagine au niveau de la FAP, loin d'être tout seul à penser tous ces trucs-là, 2 leviers possibles. Un levier qui doit être national, au travers d'un comité suivi ou d'un comité interministériel, qui aurait en charge de vérifier la mise en œuvre de cette politique d'accompagnement de la fin de vie, qui aurait en charge de l'évaluer et de redonner éventuellement des actes ou pas. Alors, je vous dis tout de suite, quand je parle d'un programme ou d'une politique, c'est 0 €. Mais jamais je ne suis allé au ministère en demandant 1 €. Ça ne sert à rien de toute façon aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on commencerait très mal les entretiens. Simplement, je pense que nous-mêmes, nous pouvons aujourd'hui déjà améliorer les choses à budget constant, de toute façon nous serons dans un budget constant. Alors après, il peut y avoir des leviers sur lesquels on peut agir, mais comment modifier les choses, et là il faut une dynamique nationale qui soit portée par, me semble-t-il, un comité de suivi ou un comité pour le moins interministériel. Mais ça suffira pas si les régions ne se saisissent pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre constat que le ministère donne des orientations et l'ARS met en œuvre les orientations, mais avec une grande marge de liberté, une grande marge d'appréciation. Et donc, pour lequel je fais, c'est que dans chaque ARS, il y ait également une politique de suivi régional de cette politique d'accompagnement de la santé. Et politique régionale, politique de suivi régional, qui doit se faire en articulation avec des professionnels. Et là, c'est le lien entre la conclusion et mon introduction pour dire qu'il y a des régions dans lesquelles je sens que ce lien existe. Je sens que les professionnels de santé sont capables de faire force devant une institution qu'est l'ARS qui a envie aussi que ça avance. Et c'est pour ça que je plaide pour que dans les régions, les acteurs travaillent ensemble, se coordonnent ensemble et soient capables, je suis sûr que ça marche parce que dans votre région ça a marché, dans d'autres régions ça marche également, quand on porte un projet commun, où on défend une visée collective et pas individualiste, et qu'on présente un projet collectif aux ARS, il n'y a pas de raison qu'elles ne suivent pas. Il y a des régions dans lesquelles c'est plus difficile, donc ça veut dire qu'il faut comparer à ce moment-là les idées. Mais j'ai du mal à imaginer que des axes nationaux de développement de soins palliatifs puissent arriver jusque dans nos communes, jusque dans nos hôpitaux locaux, s'il n'y a pas un échelon régional qui recrée ces dynamiques. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour laisser le temps aux questions. Sachez que on a en ce moment un travail national, et vous recevez sans doute un certain nombre d'éléments au niveau de l'ASPA, qui essaye à chaque fois de plaider pour ce développement de cette démarche palliative, plaider parce qu'on considère que c'est au service du malade. C'est pas mon propre service, c'est pas votre propre service. C'est plaider pour une amélioration des pratiques soignantes au service des patients que l'on rencontre chaque jour. C'est entendu, mais il y a encore un peu d'effort à faire. Voilà. Ça a passionné, hein.
Je vais juste faire rebondir sur ce qui a été dit. Dire que la PSP est en lien quand même avec l'ARS, puisque nous d'ailleurs, on a les anciens de l'ARH, on a.